Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse le débrief, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, nous sommes avec Franck Languéa. Bonsoir Franck.
Bonsoir Maury.
Je rappelle que tu es directeur général délégué de la financière de la Cité.
C'est ça.
Et ce soir, on répond tout de suite à vos questions. Et avec une première question de Hugues. Hugues qui nous demande notre avis, donc ton avis Franck, sur la société EuroAPI. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être rappeler ce que fait EuroAPI pour ceux qui ne connaîtrait pas cette société?
Alors EuroAPI, c'est ce qu'on appelle un spin-off de Sanofi qui a été mis sur le marché donc il y a un peu moins d'un an maintenant, et qui s'occupe principalement de fabriquer des principes actifs. Hein. Donc, vous savez que les principes actifs ont essentiellement été délocalisés en Chine, en Inde, dans les pays émergents, et qu'à la lumière de la crise, on a eu quand même quelques problèmes, notamment d'accès à certaines molécules. On a parlé beaucoup du doliprane, mais il n'y a pas que le doliprane, il y en a d'autres, enfin le paracétamol. Et on s'est rendu compte à cette occasion qu'il fallait rapatrier des capacités industrielles sur la France. Sanofi disposait de cette structure, cette filiale qui n'était pas détachée, qui s'appelle EuroAPI maintenant, qui a été placée sur le marché et qui est encore très dépendante de Sanofi, puisque c'est plus de 50% de son chiffre d'affaires. C'est sa principale faiblesse, c'est que son portefeuille de clients est quand même assez peu diversifié. Ça s'est très bien passé depuis l'introduction en bourse jusqu'à il y a à peu près une dizaine de jours où ils ont publié leurs résultats qui ont plutôt rincé les espoirs des investisseurs puisque l'action qui était en hausse de 35-40% a rebaissé sous son prix d'introduction puisque là on est à 15% à peu près en dessous du prix
c'est
de l'introduction.
C'est introduit quand en bourse à peu près?
Alors c'est je dirais à peu près un peu plus de 6 mois,
enfin, c'est récent,
autour de 13 euros et là ça vaut 15% de moins, donc autour de 11,50
euros. Ok. Et du coup là avec cette baisse du cours qu'il y a eu, est-ce que pour toi, quel est ton avis? C'est plutôt un point d'entrée ou alors tu es plutôt pessimiste pour la suite de ce titre?
Alors il y a des forces sur cette valeur. La principale, c'est qu'on est sur un secteur défensif, plutôt pharmacie. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable. Et les points négatifs, je l'ai signalé, c'est le poids de Sanofi dans le chiffre d'affaires. Ça, c'est une évidence. Et puis, est-ce que Sanofi va jouer le jeu longtemps en confiant tout le temps la production de ses principes actifs à EuroAPI? Alors, il y a des contrats qui les engagent, mais on sait très bien que dans la réalité, certains acteurs peuvent parfois ne pas complètement honorer leurs contrats. Donc, on verra à l'avenir si Sanofi joue le jeu ou pas. Et puis, il y a toujours aussi la problématique de l'énergie, du pincement des marges pour ces industries qui consomment quand même beaucoup d'énergie. Donc, on verra comment les choses peuvent se passer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 15 jours, ça se payait 30 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 20 fois. Donc, clairement, on a gagné en marge de sécurité pour investir sur ce type de valeur.
Voilà. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on n'a pas d'EuroAPI aujourd'hui, si on est tenté par le titre, on a plutôt intérêt à y rentrer aujourd'hui, en tout cas. On prend moins de risques.
Voilà, comme une valeur de rendement avec un rendement du dividende qui est intéressant, plutôt, entre guillemets, bon père de famille.
D'accord, très bien. Donc, EuroAPI, si vous voulez le jouer maintenant, c'est plutôt une gestion en mode bon père de famille.
Voilà, en surveillant tous les risques qu'il peut y avoir.
Évidemment, évidemment. Autre question de Guy. Guy qui nous demande quel vecteur collectif représentant les actions chinoises puis-je mettre dans un PEA et est-ce le moment? Alors, il y aura peut-être un petit problème avec est-ce que c'est vraiment compatible avec le PEA?
Il y a un problème technique, c'est que le PEA, c'est fait, je le rappelle pour vos auditeurs, pour investir sur des actions de la zone euro. Au départ, c'était pour la France, maintenant c'est de la zone euro, ça a été élargi, même de l'Union européenne, à hauteur d'au moins 75%. Donc, il n'y a aucun véhicule qui permet d'investir sur la Chine à 100% dans son PEA. Alors, il existe des véhicules structurés qui pourraient le permettre, mais c'est une façon de faire rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire qu'on va avoir un portefeuille en titres directs qui va être représentatif, par exemple, du CAC 40, sur lequel on va ajouter un swap, hein, donc c'est une banque qui va structurer ce produit, un swap qui va couvrir la performance du CAC 40 et l'exposer aux actions chinoises. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas du tout pur, qui présente des risques de crédit, parce que le swap, c'est un risque de crédit sur la banque, et donc je ne recommande pas du tout d'aller sur ce type de structure, parce que c'est pas la vocation d'un PEA. On peut investir sur un compte-titres, par contre, sur des fonds collectifs. Il y en a pléthore dans l'industrie de la gestion. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment d'investir? J'ai envie de dire que ça reste un actif très, très risqué dès lors qu'on a en tête que l'histoire de Taïwan n'est toujours pas réglée et que les impacts que pourra avoir un mouvement de la Chine sur Taïwan, on les connaît pas.
Tu parles des actions chinoises, là.
Les actions chinoises, oui, tout à fait.
Pour toi, investir dans les actions chinoises en ce moment, c'est pas forcément...
C'est hautement spéculatif.
Ok, hautement spéculatif. Voilà, retenez bien ça pour ceux qui seraient tentés. Attention, c'est risqué. Hein. Et donc le PEA, toi, tu déconseilles de faire ces éventuels montages qui permettraient de s'y exposer.
Il faut déjà trouver le fond qui structurerait ce type de montage. Et donc il y en a très peu et je déconseille vivement.
Ouais. Donc voilà, bon, pour le PEA, plutôt se concentrer sur les actions européennes.
C'est ça, c'est fait pour ça.
Bon, voilà, très bien. Donc Guy, désolé, il va falloir trouver une autre manière que le PEA pour s'exposer à la Chine, mais prudence donc sur ces actions en ce moment. Dernière question un peu atypique, hein, ou qui n'est peut-être pas forcément, en tout cas on vous le souhaite. Question de Nicolas qui nous demande comment placer son premier million d'euros. Donc voilà, bravo Nicolas. Nicolas qui visiblement a au moins un million d'euros et se demande comment le placer. Franck, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire
à Nicolas ? On peut féliciter Nicolas d'avoir un million d'euros à placer. Ouais. Alors j'imagine que c'est un placement en valeur mobilière, hein, on ne parle pas d'immobilier dans cette structure, donc on est sur une poche investie sur les valeurs financières.
Exactement.
Et là, le seul conseil qu'on peut donner, enfin le meilleur conseil, c'est déjà de diversifier. Il ne s'agit pas de tout mettre sur les actions françaises, évidemment, il ne s'agit pas non plus de mettre tout sur les actions américaines, c'est d'avoir un panel d'actions internationales représentatif de l'économie pour y investir. Donc on a des fonds d'indice MSCI qui sont très bien. Avoir un peu d'investissement sur la zone dollar, évidemment, parce que c'est une zone dominante. Ne pas oublier l'euro, parce que c'est la zone naturelle de l'investisseur. Et puis parfois un peu de monnaie émergente, ça peut être intéressant. Ensuite, sur les classes d'actifs, alors ça va dépendre de l'âge aussi de Nicolas, c'est ça ?
Alors malheureusement, j'ai pas plus d'infos. J'ai pas l'âge et j'ai pas non plus l'horizon d'investissement, parce que c'est aussi ça qui est important.
C'est ça qui est important. Ouais. Et Nicolas, si j'en crois son prénom, doit avoir entre 40 et 50 ans. C'est la classe d'âge des Nicolas. Donc il a quand même un peu de temps devant lui. Donc il faut qu'il ait des actions. Il ne s'agit pas d'investir sur les produits monétaires en ce moment de façon massive quand on a 40 ou 45 ans.
Voilà, très bien, on va faire ça. On va partir du principe qu'il a entre 40 et 50 ans. Et on parle pour un million d'euros, mais l'idéal, c'est de parler en termes de diversification. Voilà, si vous qui avez entre, par exemple, 40 ou 50 ans, sur quel produit, selon toi, il faut aller, qu'on ait un million ou moins, voilà.
Il faut qu'il y ait des actions. Moi, je dirais 40-50% d'actions internationales, c'est l'idéal. Ça, c'est le socle de l'investissement, à mon sens. À côté de ça, les produits obligataires qui ont été mis de côté pendant 10 ans, à juste titre, hein, parce qu'il n'y avait pas de rendement, il n'y avait plus de prime de crédit qui était payée, doivent être à nouveau introduites dans les portefeuilles. Je dirais à hauteur de 30-40%, parce que c'est un vrai amortisseur dans le portefeuille financier. Donc là, on arrive à 70, et ensuite, on peut ajouter des produits un peu diversifiants et décorrélés.
Donc alors, nous, juste quand tu parles d'obligataires, tu parles d'obligataires souverains des États ou d'obligataires d'entreprise,
plutôt obligations d'entreprise, enfin c'est en tout cas ce qui est à ma faveur. On peut mettre un peu d'emprunt d'État de façon moins importante, mais je pense qu'il y a plus de valeur dans les obligations d'entreprise. Il y a la prime de crédit qui permet d'avoir un rendement qui est supérieur avec une duration qui est plus courte. Et c'est vrai qu'une duration courte dans les phases de hausse des taux telles qu'on les connaît, c'est plus de protection finalement pour l'investisseur.
Okay,
donc plutôt obligations privées.
Okay.
Et ensuite, en diversification, en décorrélation, alors il y a un actif qu'on aime bien, nous, pour diverses raisons, c'est l'or, pour ses vertus à lutter contre l'inflation, contre l'érosion monétaire. C'est un actif qui est très décorrélé, qui bénéficie de la croissance mondiale et qui ne dépend pas des banques centrales. Enfin, il y a tout un argumentaire sur le sujet de l'or qui, moi, me parle. Et là, je pense que 5 à 10% d'or dans le portefeuille, c'est quelque chose qui est raisonnable et qui peut abaisser assez fortement la volatilité lors de phases de cristallisation des risques. Donc si mes calculs sont justes, on arrive à 80%.
C'est ça, alors pour l'instant, tu as dit actions internationales, obligations privées et de l'or.
De l'or.
5%, tu as dit, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et ensuite, en complément, il y a des actifs qui sont hybrides, comme les obligations convertibles, que je connais bien, qui me semble avoir présenté de la valeur en ce moment pour plein de raisons. D'une part, les taux ont suffisamment monté pour désormais présenter...
Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une obligation convertible, peut-être un petit rappel.
Une obligation convertible, c'est à la fois très simple et très compliqué.
Ouais.
Mais si on devait résumer les choses schématiquement, on est sur un produit qui est intermédiaire entre une obligation, donc qui va payer une séquence de coupons qui est connue dans le temps, hors événement de défaut, puisqu'on parle d'émetteurs privés, qui vont assurer une régularité des paiements et donc une solidité de l'investissement depuis le jour de l'investissement. Et ensuite, on a une option, donc un call, pour ceux qui s'y connaissent un peu, donc une option d'achat à long terme sur le sous-jacent, donc qui est l'action de l'entreprise, qui permettra de bénéficier d'une progression de l'action sous-jacente. Donc, par exemple, Total émet une obligation convertible. Donc, c'est l'émetteur qui est Total. Elle emprunte de l'argent, cette société, Total Energy. Et elle va proposer...
Donc, nous, on lui prête.
Nous, on lui prête. Ouais. Alors, on lui prête moins cher que si elle avait emprunté sur une obligation normale. C'est normal parce qu'il faut financer le coût de l'option. Et cette option, elle nous permet de devenir actionnaire si jamais un certain nombre de conditions sont remplies. Et en règle générale, c'est une progression de l'ordre de 30% de la valeur de l'action Total. Donc, je prête. Si jamais les choses se passent bien pour Total et que la croissance est au rendez-vous, je transforme mon obligation en action et je peux viser à doubler mon capital à cette occasion.
Donc, ça permet en fait de jouer sur deux tableaux, en fait. À la fois sur de la dette privée d'entreprise.
Exactement.
Et potentiellement, éventuellement, carrément, de l'action, de rentrer dans les actions de cette même entreprise.
Voilà, on sécurise d'une certaine manière son investissement sur la partie obligataire et on bénéficie de la bonne tenue de l'action si jamais les choses se passent bien sur l'action.
Ok, donc intéressant. Et ça, tu dirais quel pourcentage dans le portefeuille ?
Ça peut représenter 15-20% du portefeuille.
Donc, tu dirais à peu près en action, tu dirais combien de pourcents à peu près pour résumer ?
Je pense qu'il faut viser 50%, 40 à 50% d'actions. Il y a une composante action dans les convertibles à ajouter peut-être de l'ordre de 10%. Donc, on arriverait à entre 50 et 60%. Et puis, le reste en produits obligataires et en or.
Ok.
Bon, ça me paraît être bien segmenté. Ensuite, dans les actions, il y a plein de choses différentes. Hein. Il y a des actions de matières premières. Évidemment, je pense que c'est bien de s'y intéresser parce qu'on est dans un monde qui va être de plus en plus inflationniste, même si là on est sur des niveaux très élevés, mais on aura plus d'inflation que sur les deux décennies précédentes. Et détenir des actions de matières premières, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très défensif et qui est nécessaire dans une gestion de portefeuille.
Il y en a, par exemple, les actions de matières premières, là, il y en a une ou deux qui te semblent intéressantes, que tu regardes particulièrement.
On peut regarder les grandes pétrolières internationales, ExxonMobil, Total Energy, BP. Déjà, on est bien investi sur le segment du pétrole. Et puis, on peut regarder d'autres sociétés minières, par exemple, généralistes comme Anglo American, ou d'autres plus spécialisées sur, par exemple, le nickel, sur ce type de matériaux comme Eramet en France.
Ok. Et Total Energy, je pose la question, bah, parce que c'est français, et on a souvent beaucoup de questions sur Total Energy. T'es encore positif sur Total Energy pour la suite, sachant que ça avait déjà pas mal monté. Toi, comment tu vois les choses
Alors, ça a beaucoup monté sur les deux dernières années, mais c'est vrai que c'est encore très en retard. Enfin, le secteur de l'énergie est encore très en retard par rapport au poids qu'il représentait il y a 20-25 ans. Donc il y a sans doute encore du potentiel sur ce type de valeur.
Ok, bon, très clair. Merci beaucoup Franck.
Franck, avec plaisir.
Je rappelle que tu es directeur général délégué de La Financière de la Cité. Et merci d'avoir répondu à vos questions. D'ailleurs, pour nous les poser, c'est très simple. Vous nous écrivez à bfmbourse@bfmbusiness.fr et on vous répondra comme Franck vient de le faire. Merci beaucoup, Franck.
Merci à Maurice.
Excellente soirée à vous sur BFM Business.